Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ravis de démarrer cette nouvelle semaine avec vous. Cette nouvelle semaine démarrée également avec Rémi Barré. Bonjour Rémi.
Salut Estelle et bonjour à tous.
Il y a également ce lundi autour de la table le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Bonjour Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous.
La journaliste indépendante de Dijon, Emmanuelle Dancourt. Bonjour Emma.
Salut Estelle, salut tout le monde.
Et puis Jérôme Lavrieux, notre désormais propriétaire de gîte qui s'active pour la haute saison. Jérôme, ça arrive.
Oui. Et puis en plus, je les salue parce que j'ai eu des auditeurs de RMC qui sont venus dans mes gîtes ce week-end.
Quel plaisir.
Ça m'a fait plaisir et j'ai promis de les saluer, les fidèles auditeurs.
Eh bien écoutez, c'est fait. Allez, au sommaire, aujourd'hui dans Estelle Midi, le gouvernement qui rehausse le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé après l'attentat de Moscou vendredi soir. Êtes-vous inquiet? Dites-nous tout au 32-16. On parlera de Kate Middleton qui a annoncé son cancer lors d'une vidéo vendredi. Faut-il tout dire désormais lorsqu'on est une personnalité publique? À 13h, 20 milliards d'euros d'économies à trouver en 2025. Doit-on mettre les retraités à contribution pour rétablir les déficits publics? Vos avis, vos réactions également sur l'appli RMC. À 14h, l'eau, le pain, les cacahuètes, faut-il les rendre payants au restaurant aujourd'hui? C'est gratuit. Il y a même une loi qui oblige les restaurateurs à donner du pain. On en parlera avec
exactement
vous à 14h. 14h30, ce sera RMC Conso. On vous dira ce que valent les nouveaux sucres à la mode. Vous savez, le sirop d'agave ou de yacon, le sucre de Coco, et puis on fait gagner une très très grosse somme d'argent sur RMC, Rémi.
C'est le retour du coffre RMC et nous vous offrons jusqu'à 50 000 euros. Dès que vous entendez ce signal, vous aurez alors 5 minutes pour envoyer coffre par SMS au 73216. Attention, ce signal, il peut tomber à n'importe quel moment. Pendant l'émission, pendant les pubs, tout au long de la journée, même plusieurs fois par jour sur RMC. Vendredi 29 mars, l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2500 euros. Déjà une très belle somme, et à ce moment-là, vous avez le choix, soit de garder cette somme, soit d'y renoncer pour pouvoir ouvrir le coffre RMC. À l'intérieur, il peut y avoir soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros pour vous inscrire. C'est coffre par SMS au 73216. Coffre par SMS au 73216.
RMC Estelle Midi.
Midi 7 sur RMC, on va démarrer tout de suite Estelle Midi avec l'actualité du jour. Et c'est la France qui relève le niveau Vigipirate après l'attentat de Moscou qui a fait 137 morts vendredi soir. Le gouvernement est passé au niveau urgence attentat, c'est le plus haut niveau possible. Mais concrètement, ça va changer quoi dans notre quotidien, Rémi?
En fait, ce niveau permet de renforcer la sécurité autour des établissements scolaires et des lieux de culte, tout comme dans les transports et à proximité des bâtiments publics. Très concrètement, des patrouilles supplémentaires de la force Sentinelle, des militaires, seront mises en place, les fouilles de sacs ou filtrages multipliés. Au total, ce sont 300 mesures exceptionnelles, contraignantes pour prévenir tout risque d'attentat qui sont prévues pour une durée qui se doit théoriquement d'être très limitée dans le temps. Je l'ai dit, ce sont des mesures exceptionnelles. Cela concerne l'ensemble du territoire national. Ce niveau, il a été créé en 2016, le niveau d'urgence attentat, mis en place pour la dernière fois en octobre 2023, en octobre dernier, c'était après l'assassinat de Dominique Bernard, poignardé à mort dans le lycée d'Arras où il enseignait. Le plan Vigipirate est ensuite redescendu au seuil sécurité renforcée risque d'attentat mi-janvier. Lui aussi était censé durer pour une durée limitée. Mais là, donc, clairement, on est placé un cran au-dessus.
Alors, êtes-vous inquiet après ce relèvement du niveau du plan Vigipirate, Thierry Moreau?
Pas inquiet, mais je pense qu'il faut être vigilant. Le problème, c'est que vous savez comment c'est dans le traitement à la fois des chaînes Tout Info, dans l'opinion, etc. Une actu chasse l'autre. Et c'est vrai qu'on a un peu eu tendance à mettre ça au second plan, parce qu'il y a eu l'Ukraine, parce qu'il y a eu les crises internes à notre société française, sur notamment la crise agricole. En fait, cette menace, elle n'a jamais cessé. Il y a eu Bir Hakeim, il y a eu Arras, comme l'a rappelé Rémi tout à l'heure. Et en plus, la branche qui serait responsable, parce qu'il faut évidemment parler au conditionnel de ce qui s'est passé à Moscou, serait la même que celle qui aurait commis des attentats, c'est ce que le président a déclaré il y a quelques minutes. Mais aussi, et ça a été documenté, c'est la même branche qui aurait aussi fomenté des tentatives d'attentats en Allemagne, dont la dernière a eu lieu le 19 mars. Donc c'est quelque chose de très 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 récent. Donc effectivement, il faut être vigilant. En fait, ce qui se passe, c'est que l'État islamique a bénéficié du retrait et puis du fait que les États-Unis et aussi les grandes puissances occidentales se concentrent sur l'Ukraine et ont sans doute un peu délaissé géographiquement déjà en quittant certains pays il y a déjà plusieurs années, mais aussi en termes de moyens, je pense ces théâtres d'opération qui doivent rester fondamentaux pour nous. Donc c'est un retour à la réalité, je dirais, plus qu'une inquiétude ou une vigilance.
Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faut changer nos comportements, redoubler de vigilance ou essayer de vivre comme avant? Parce que finalement, cette menace, même si elle était peut-être moins élevée avant, elle a toujours existé. Et Emmanuel Macron vient de le dire, il y a eu encore des attentats qui ont été déjoués en France, en fait.
En octobre dernier, Gérald Darmanin, qui était interrogé devant le Sénat, avait indiqué que ces dernières 5 années, 43 attentats islamistes ont été déjoués en France. Ça fait un attentat déjoué tous les mois et demi.
Moi, je pense que bien sûr qu'il faut que chacun soit inquiet. C'est une menace qui plane sur nos têtes depuis des décennies maintenant. De temps en temps, on se relâche. Et puis, de temps en temps, il y a même des pays qui tiennent pas compte des avertissements. Regardez la Russie. Et tous les gens qui disent il faudrait un État fort en France, un homme providentiel, il faudrait qu'on restreigne les libertés des uns et des autres, parce que le pays serait bien dirigé, serait bien sûr. Ben, ils ont été prévenus qu'il allait y avoir des attentats. Les Américains les ont prévenus. Mais non, comme ils sont focalisés sur l'Ukraine, ils ont dit, mais non, nous, dès qu'il y a quelqu'un qui bouge une oreille, qui dit quelque chose sur Poutine, il finit au goulag. Mais résultat des courses, ils ne sont pas occupés de la sécurité de leurs concitoyens. Alors qu'ils ont été prévenus. Moi, je préfère être dans une démocratie où on écoute les signaux faibles comme les signaux forts et on fasse tout pour l'éviter. Rémi a raison de le dire, il y a des dizaines d'attentats qui sont régulièrement évités. On n'en parle pas, c'est normal. Mais on sait tous qu'il y aura à nouveau un attentat à un moment ou un autre. L'idée, c'est d'être chacun vigilant, de compter aussi sur les pouvoirs publics qui ne sont pas infaillibles. Ils sont pas infaillibles, faut l'avoir en tête, mais il faut essayer de réduire au maximum le risque. Quand on voit un bagage abandonné, c'est pas juste forcément un étourdi. Il faut prévenir. Quand on voit quelqu'un qui a un comportement un peu dérangé, parce que c'est pas souvent des mecs qui ont bac plus 12 qu'on fait venir de l'autre bout du monde pour le faire. C'est aussi des gens dérangés qu'on essaye on retourne le cerveau en quelques heures et ils viennent. Il faut prévenir. Vaut mieux avoir l'air stupide en prévenant inutilement. En alertant inutilement, que de se prendre à un type qui va y aller à la Kalachnikov ou au couteau. Et donc, nos démocraties sont elles aussi armées pour faire ça, peut-être parfois plus que les dictatures.
Emmanuel Dancourt, Rémi l'a rappelé, le plan Vigipirate Urgence Attentat, ça signifie aussi que la sécurité va être renforcée aux abords des écoles. Est-ce qu'on ne devrait pas en profiter, entre guillemets, pour enfin mettre des portiques de sécurité devant les établissements, à l'entrée des établissements?
Alors, je ne sais pas si on a le budget pour ça. Déjà, dans un moment où on est en train de restreindre le budget de toutes parts.
Ah, ça ne coûterait pas, c'est pas ce qui coûterait le plus cher.
Moi, je ne suis pas sûre qu'on se relâche, comme tu disais, Jérôme. En tout cas, je pense que ceux qui sont en charge de notre sécurité ne se relâchent pas du tout, que nous, on est un peu oubliés depuis 30 ans. Peut-être, ce qui moi n'est pas mon cas, parce que je suis beaucoup dans les transports et que tu vois vraiment, enfin le plan Vigipirate, tu vois qu'il est là. Et tu as raison, quand tu dis qu'il faut faire attention aux bagages oubliés, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait bloquer tous les hall 3 de la gare de Lyon parce qu'il y avait une valise posée au milieu.
Ah, c'était toi?
C'était moi. Non mais je t'assure, c'est flippant, tu vois la valise toute seule, tu dis attends, qui vraiment oublie sa valise? Ça peut arriver, t'as les gamins, machin, etc. Mais tu prends pas le risque, tu préviens les services de l'ordre. Il boucle, c'est très très rodé. Il faut quand même savoir que ça date d'il y a 30 ans quand même, cette menace. Ça, c'était 1994, décembre 1994 à Marignane, quand il y a eu le détournement d'avion. C'était un attentat de Daesh et que le GIGN avait donné l'assaut. Je pense que vous vous souvenez de ça. Puis après,
95 Saint-Michel.
Après il y a eu Saint-Michel. Il y a eu de multiples choses derrière. Tu as parlé tout à l'heure du pont Birakeim, mais effectivement, l'attentat au couteau du pont Birakeim, on avait retrouvé dans l'ordinateur de l'assaillant un lien avec cette branche spécifique de Daesh, qui est une branche spécifique qui est sur l'Asie centrale, qui est sur les anciennes républiques musulmanes soviétiques comme le Tadjikistan, c'est sur l'Afghanistan aussi, ils sont présents partout et on sait qu'ils sont présents en France. On le sait puisqu'il y a eu des attentats et encore il n'y a pas longtemps, là en Allemagne, ils ont déjoué un attentat. C'était des mecs qui voulaient aller devant le Parlement en Suède, tirer à la mitraillette au hasard et ils ont réussi à... Donc est-ce que toi
t'es inquiète et est-ce que toi tu dis, voilà, aujourd'hui, il y a aussi une menace qui pèse sur les établissements scolaires. Il y a quand même, dans les récents attentats, il y a eu des établissements scolaires qui était touché, je pense à Dominique Bernard. Qu'à un moment il faut renforcer encore plus la sécurité et mettre des portiques à l'entrée? Ça éviterait au moins les armes,
Écoute, moi, dans dans le lycée de mes enfants, il y a un contrôle des sacs à 8 heures et il n'y a plus de contrôle des sacs à partir de 9 heures. Donc, quand tu prends à 9 heures ou à 10 heures, rien que ça. Rien que déjà, contrôle de ça. Hein,
les grilles sont fermées. En dehors des heures de rentrée des classes, les grilles sont fermées.
Mais peu importe.
Moi, mes nièces, ceux qui sont dans une école primaire,
l'école primaire, tu vois, si c'est un assaillant qui arrive, tu vois bien qu'il y a, oui, il y a un petit différentiel avec les enfants.
Ce que je veux dire, c'est que détecteur, comme dans les aéroports, ouais, à l'entrée des établissements, ça n'évitera jamais le type qui vient avec une kalachnikov et qui fait une rafale pendant que tous les gens attendront de passer au détecteur pour rentrer dans l'école.
Tout à fait, d'accord.
C'est le phénomène des queues qu'il faut éviter. Mmh. C'est pour ça qu'on essaie de élargir le périmètre. Moi, j'ai connu une époque où tu pouvais te garer ta voiture devant l'entrée des écoles. Maintenant, il y a des barrières partout.
Toujours, hein.
C'est interdit. Non,
il y a des barrières devant toutes les écoles, normalement.
C'est interdit partout devant les écoles.
Bah oui.
C'est interdit.
Sinon,
c'est que ton maire fait pas son boulot.
Pas du tout. Hein. Moi, je me suis toujours garé devant la grille de l'école primaire de mon gamin.
Non, tu peux déposer. Mais tu peux pas laisser une voiture.
Exactement.
C'est interdit de stationner.
Partout, on a même un parking pour ça, donc.
Alors, je sais pas où tu habites, mais ils ont un problème d'organisation.
Non, il y a plein d'écoles.
Ça coûte assez cher aux mairies de réaménagement de tous les périmètres des écoles. Dans Paris, on le voit, il y a des écoles à 500 mètres d'ici. Je passe devant régulièrement. C'est strictement interdit et tu dois sonner. Ce qu'il faut faire attention, c'est sur le fond, t'as une bonne idée de dire, mais il faudrait détecter. Le problème, c'est que quand tu fais un truc comme ça, tu fais stagner des gens sur les trottoirs et t'as un abruti qui passe avec la voiture, il baisse la vitre.
Vous pouvez le faire dans les gares aussi, tu vois.
Et il accélère.
Mais dans les gares, ce serait possible.
Regarde,
hein,
un truc dans les gares maintenant. Si tu prends les gares parisiennes, pas les gares de province, mais les gares parisiennes, si tu veux monter dans ton TGV, il y a que ceux qui ont le billet.
Tu peux être terroriste et avoir acheté un billet. Hein. Enfin, je veux dire,
donc le risque zéro, on est bien d'accord.
Sauf que si tu avais des portiques au-dessus, par exemple, dans les gares, justement dans les gares parisiennes, quand tu scannes ton billet, s'il y avait un portique de sécurité au-dessus,
c'est pour ça que dans l'aéroport, on doit arriver entre 30 minutes et une heure avant pour prendre l'avion.
Ça aurait un coût quand même. J'ai regardé. Alors c'est un calcul vraiment.
T'as déjà chiffré, toi.
Non, mais j'ai vraiment fait ça au doigt mouillé parce que j'ai regardé le prix d'un portique. Alors ça dépend du type de portique, etc. Mais au bas mot, c'est 2000 euros un portique. Il y a 66 000 établissements scolaires en France.
Avec plusieurs entrées.
Moi, j'ai chiffré ça. Déjà, rien qu'à. C'est un chiffrage comme ça, c'est plus d'un milliard d'euros.
Mais Laurent Wauquiez avait voulu le faire dans les lycées, la région Auvergne-Rhône-Alpes, quand il y avait eu des choses qui sont passées à l'intérieur des lycées. Je suis pas sûr qu'on ait dépassé le stade B expérimental.
Absolument.
Parce que c'est impossible. Et en plus, il faut des personnes assermentées pour vérifier les choses, qui aient fait une formation, etc. Ça devient juste ingérable.
Je voudrais qu'on prenne Thomas en ligne, qui nous appelle de Fayence, dans le Var. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Ah, on vous entend très très mal, Thomas. Faut parler tout près de votre combiné.
Alors, vous m'entendez mieux ?
C'est moyen. Vous savez quoi, Thomas ? On va vous rappeler. On va vous rappeler dans un instant parce que là, la liaison, elle est pas bonne du tout. Vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, juste, j'ai l'impression que comme c'est une branche de Daesh qu'on connaît pas très bien en France ou qu'on a l'impression de pas connaître, en tout cas, les médias n'en ont pas forcément spécialement parlé, on n'a pas fait attention, on a l'impression qu'il y a une nouvelle menace. Mais c'est pas une nouvelle menace. C'est comme quand on a découvert qu'il y avait des Tchétchènes en France. Alors nous, on les a bien découverts à Dijon en 2018. Mais en fait, voilà, c'est une communauté qui est là, qui est présente depuis longtemps.
Alors notre invité sur ce débat, c'est Christophe Miette. Il est secrétaire national du syndicat des cadres de la sécurité intérieure, CFDT. Bonjour Christophe Miette.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Est-ce qu'il faut être en alerte ? Ou est-ce qu'il faut continuer à vivre comme d'habitude, Christophe Miette, en se disant que la police fait bien son travail ?
J'allais dire les deux, il faut continuer à vivre normalement pour pas que ces idéologies extrémistes gagnent sur nous, sur notre mode de vie. En même temps, il est inquiétant de voir que l'idéologie islamiste est toujours non affaiblie, malgré un recul sur le terrain depuis des années, malgré la perte des territoires Daesh et les guerres qui sont succédées. Il est vrai que nous avons de plus en plus d'auteurs jeunes qui adhèrent à ces idéologies et cette rhétorique bien connue contre la France ou les pays occidentaux, tels que le voile, la laïcité, ainsi de suite. Et nous avons des auteurs qui n'hésitent plus à passer à l'acte, soit en fonction d'actes d'opportunité, soit en fonction d'éléments de leur propre vie qui sont déclencheurs pour ce passage à l'acte. Maintenant, nous avons un tout, il faut continuer. Les policiers et les services de de renseignement, la police judiciaire, et y compris les policiers de terrain, sont fortement sollicités, mais restent plus que jamais mobilisés pour essayer de maintenir cette vie à l'occidentale qui nous est chère, tout simplement.
Mais est-ce que ce plan Vigipirate, urgence attentat, est-ce qu'il est suffisant? C'est le grade supérieur, bien sûr, mais est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin ou est-ce que c'est impossible?
Ce qui est, enfin, tout est une question après de moyens et où on veut mettre la barrière. Ce risque d'urgence attentat a été créé en 2016 de mémoire et a été utilisé deux fois lors de l'attentat de Strasbourg et contre l'attentat de Dominique Bernard. Maintenant, on peut toujours faire plus, mais on va rentrer dans un état quasi militaire. Donc, est-ce que c'est bien ce qu'on veut ou s'attaquer directement sur le terrain avec les ressources nécessaires, avec une meilleure coopération entre les pays à l'international? Voilà, c'est une barrière à positionner pour notre vivre en France au niveau international, je pense.
Et alors c'est vrai que voilà, Emmanuel Macron disait que cette branche de l'aile justement avait déjà essayé de commettre des attentats en France. Gérald Darmanin, Rémi Barré le rappelait il y a quelques instants. Gérald Darmanin a rappelé qu'en fait il déjouait bon nombre d'attentats sur le sol français chaque mois. Est-ce qu'à un moment il faudrait pas se dire il faut vivre tout simplement avec ce plan urgence attentat et ne jamais le baisser finalement parce qu'on est toujours en danger?
Vous savez, depuis des années, depuis 2015, même l'attentat Mera, nous succédons au niveau des plans vigilants.
Ah, on vous a perdu, la Christophe Miette.
Allô?
Ah, ça y est, c'est mieux. Allez-y. Oui.
Non, j'étais en train de vous dire que depuis l'affaire Mera, au début des années 2010, on continue, on augmente de plus en plus ce plan Vigipirate. Oui, il faut apprendre à vivre avec ce risque. Oui, il faut se protéger. Oui, il faut tous être vigilants. Nous sommes tous vigilants et nous avons un rôle dans la société à se méfier, à regarder, à signaler. Mais voilà, si on s'arrête dès demain, c'est Daesh, c'est les terroristes qui gagneront. Donc oui, il faut faire preuve de vigilance. Il faut investir la sécurité à un prix. J'entendais tout à l'heure concernant les portiques. Oui, ça coûte 1 milliard, mais peut-être il va falloir passer par là pour les écoles, pour sécuriser les lieux de culte également. La sécurité a un coût et c'est une affaire du quotidien de tous.
Merci beaucoup en tout cas Christophe Miette d'avoir été notre invité sur ce débat. Vous êtes très nombreux à intervenir. On va tout de suite donner la parole à Thomas qu'on a retrouvé, Thomas de Fayence dans le Var, qui est manager dans l'informatique. Bonjour Thomas. Thomas, est-ce que vous êtes inquiet depuis le relèvement du niveau du plan Vigipirate?
Alors pas plus mais pas moins en fait.
D'accord, ça ne change rien pour vous.
Non, dans le sens où, en fait, depuis les années 2000 maintenant, je crois qu'il faut qu'on soit tous extrêmement vigilants. La solution, pour moi, elle vient de nous, en fait. On ne peut pas mettre un policier devant toutes les portes d'école. On ne peut pas non plus les mettre à tous les carrefours parce qu'il faut surveiller les gens qui conduisent mal. On ne peut pas en mettre dans tous les endroits des aéroports ou des zones de transport. Donc, à un moment donné, c'est à nous aussi de nous prendre en main. Et se prendre en main, ça ne veut pas dire devenir tous des guerriers ou des tueurs sanguinaires. Ça veut peut-être dire monter notre niveau de vigilance. Finalement, quand on vous disait avant, faut crier au feu parce que si vous criez à l'agression, personne ne viendra. Ben c'est un peu ça qu'il faut tuer et il faut revenir à quelque chose où on s'entraide les uns les autres. Voilà.
Et vous, Thomas, vous êtes instructeur de Krav Maga, ça vous formez des adultes et des enfants à l'autodéfense. Est-ce que finalement, on devrait tous se mettre à l'autodéfense?
Complètement. D'abord parce que ça calmerait tout le monde et dès le collège, en fait. Parce que là, par exemple, la boxe ou le judo ou ce type de sport permettrait de calmer les esprits un peu bagarreurs de certains, ce qu'on appelle les bullies. Hein. Là, un bully, c'est un gamin qui a finalement qu'embête les autres. Et,
oui, mais là, je parle par rapport à des attentats. Est-ce qu'on devrait tous, parce qu'en fait, ça augmente aussi la vigilance quand on fait les arts martiaux, mais.
Non mais exactement en fait, ça permet à tout le monde de retrouver un petit peu l'instinct primaire de se défendre physiquement. On nous a demandé d'arrêter, on nous a demandé de faire confiance à la police, on nous a demandé de faire confiance à l'État, à la justice, et on voit bien que tout ça a ses limites. Et donc revenir finalement à quelque chose de un peu plus animal sans non plus sombrer de l'autre côté, hein, c'est-à-dire apprendre à se défendre et se défendre contre tout type d'agression, qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, savoir dire stop. La police peut pas être partout, vos amis peuvent pas être partout, donc ça devient très très compliqué. Et là aujourd'hui, on a affaire à des gens, quelle que soit leur motivation, qui sont des fous. Donc il y a pas, on peut pas raisonner avec des fous.
Enfin, cela dit, même si vous êtes expert en art martial, si quelqu'un arrive avec une Kalachnikov,
on parle pas d'expertise, on parle de réaction et de vigilance.
C'est ça.
Quand vous montez dans faire un peu confiance à votre instinct, c'est-à-dire que quand vous montez dans un métro, si vous aimez pas la rame, si vous aimez pas quelqu'un, il y a un sixième sens qui vous dit j'aime pas la situation.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Alors,
aujourd'hui, on se laisse embarquer dans le système.
D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à nos enfants. Si tu vois un mec bizarre dans le métro, tu changes de rame, quoi.
Oui, quand vous arrivez dans un restaurant, vous aimez pas la table où vous avez d'aller le serveur, vous avez le choix de dire ben non, j'en voudrais une autre ou je quitte. C'est pas être complètement fadabrac, c'est rentrer dans un supermarché à midi, savoir que vous allez y passer toute la journée parce que c'est les grands malls et que c'est Noël, et que quand vous allez ressortir, il va être minuit. L'importance de savoir où vous stationnez votre véhicule, c'est pas être un guerrier, ça. C'est avoir du bon sens, c'est avoir un minimum de vigilance. Voilà.
Ouais, on devrait tous être en hyper-vigilance. Merci beaucoup, Thomas, d'avoir été avec nous. Des messages, Rémi, sur l'appli RMC.
Allez, un message, par exemple, de Tino Bois, c'est son pseudo sur Direct Studio, qui nous dit « Contrôle drastique à nos frontières terrestres, maritimes et aéroportuaires. Vous verrez qu'il y aura déjà moins d'armes qui se baladeront en France, donc moins de possibilités d'attentats. C'est une question de volonté politique. »
Ils sont faits, les contrôles.
Et puis, ce message de Ludo, qui nous dit « Oui, c'est fait. » Sauf que Ludo temporise. Moi, je viens juste de prendre le Thalys à Charles de Gaulle. Aucun contrôle d'identité, aucun portique. Je vous embrasse.
Oui, évidemment. Oui, alors que le Thalys a été témoin d'un attentat. Il n'y a pas si longtemps que ça. On vous a posé la question, alerte attentat en France. Êtes-vous inquiet, Rémi? Ça donne quoi?
Allez, on est dans la marge d'erreur là. C'est oui pour 51% de ceux qui font prononcer sur nos réseaux sociaux.
Ah, les Français qui veulent continuer à vivre comme avant, finalement, être vigilants, mais continuer à vivre normalement.
On voit pas ce qu'il dit.
Exactement. Dans un instant, on parlera de Kate Middleton, la future reine d'Angleterre, qui a annoncé vendredi qu'elle avait un cancer. Mais doit-on tout dire aujourd'hui lorsqu'on est une personnalité publique? C'est la question qu'on se posera dans un instant dans Estelle Midi. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi. On est aujourd'hui avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Emmanuel Dancourt et Jérôme Lavrieux. Et on va tout de suite s'intéresser à l'annonce du jour. Vous n'avez pas pu la rater, c'est celle de Kate Middleton, la future reine d'Angleterre, a annoncé vendredi soir dans une vidéo qu'elle souffrait d'un cancer. Une annonce qui a suscité une très forte vague de soutien outre-Manche après une longue période de silence et d'incertitude, Rémi.
Oui, et les spéculations sont allées bon train ces dernières semaines. Une expression est même devenue populaire ces dernière semaine outre-Manche, la Kate-spiracy. On pourrait traduire ça comme le complot Kate. Les rumeurs et autres théories scabreuses se sont multipliées, n'ont quasiment pas cessé durant deux mois depuis l'annonce, le 17 janvier dernier, de l'opération à l'abdomen qu'a subi la princesse de Galles jusqu'à la publication donc de la vidéo de vendredi dernier. Tout y est passé, ou presque. Pour certains, Kate se remettait d'un trouble de l'alimentation ou cachait une opération de chirurgie esthétique ratée. Pour d'autres, son absence est le signe que son mariage avec le prince William bat de l'aile. Le futur roi d'Angleterre aurait même eu une maîtresse dont on cite le nom, Lady Rose Humbery, qui sera obligée la semaine dernière par la voix de ses avocats de démentir. Enfin, certains iront même jusqu'à prétendre que la princesse de Galles est tout simplement décédée. Une vidéo de Kate et William en train de faire des courses dans une épicerie de Windsor la semaine dernière n'y fait rien. Il ne s'agirait pas de la princesse, mais d'un sosie, c'est ce qu'on dit certains. Ces derniers jours, plusieurs tentatives d'accès au dossier médical de Kate Middleton par des personnels soignants ont même été détectées. Certains tabloïds britanniques étaient prêts à payer très cher pour obtenir ce dossier médical. Et face à un tel déchaînement médiatique quasiment hors de contrôle, la princesse n'a pas vraiment eu d'autre choix que de prendre la parole.
Alors, les personnalités publiques doivent-elles tout dire? Je me tourne vers vous, Thierry, qui avait travaillé dans un hebdomadaire People.
C'est compliqué, en fait, parce que d'abord, il faut rappeler que la vie privée, elle est beaucoup moins protégée en Angleterre qu'en France. En France, on a l'article 9
pas du tout,
qui protège très, très, très bien. En Angleterre, si on a la preuve de ce qu'on raconte, on peut à peu près dire ce qu'on veut. Je simplifie, mais c'est un peu ça. Donc, ça laisse évidemment la porte ouverte à tous les débordements. Et souvent, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est souvent un accord, un gentleman agreement, notamment pour laisser les enfants tranquilles à l'école, etc., etc. Mais, au regard de la loi, ils peuvent dire un peu ce qu'ils veulent et raconter ce qu'ils veulent. La deuxième chose, c'est qu'il faut rappeler que la couronne britannique, elle sort d'une période de mutisme dans sa communication qui a été proverbiable. Vous vous souvenez, Elisabeth, never explain, never complain. Sauf que ça, avec l'époque d'aujourd'hui, c'est plus tenable. Donc, ils sont obligés de s'adapter à l'époque d'aujourd'hui et ils tentent de s'adapter. Sauf qu'ils le font maladroitement. Pour plusieurs raisons, ils commettent des erreurs. La photo retouchée, c'est une erreur magistrale.
Personne n'a compris pourquoi cette photo avait été retouchée. En fait.
Justement, derrière, comme l'expliquait très bien Rémi, ça déclenche toutes les théories. Même chose sur sa déclaration. Elle dit « Je subis une chimio préventive ». Ça n'existe pas, les chimios préventives. Ça s'appelle les chimios adjuvantes. Quand on a eu une, je connais bien le problème, je l'ai vécu près de moi. Quand on a eu une opération très lourde, eh ben derrière, on fait une chimio pour éviter qu'il y ait des métastases ou que ça renaisse là où on a enlevé le maximum de
cellules. Mais peut-être que ça se dit préventive en Angleterre, tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être une différence de vocabulaire entre l'Angleterre et la France.
Je ne crois pas, hélas. Donc je pense que le problème, c'est quand on veut jouer la transparence, il faut la jouer complètement. Si on la joue pas complètement, ben il y aura toujours effectivement, comme l'a expliqué très bien Rémi, une brèche et dans la brèche s'infiltrent tous les complotistes. Elle est morte, elle est plus, c'est plus elle, c'est un sosie, elle est cocu, etc., etc. Donc c'est très très compliqué.
Emmanuel Dancourt, est-ce que vous trouvez ça bien et souhaitable finalement que les personnalités publiques se mettent à nu et disent tout ?
Alors plutôt oui. Après ça reste, comme l'a tout de suite précisé Thierry, une décision intime. Mais bien à sûr. Partir du moment où ils le font, moi je trouve ça très bien, et c'est pas juste moi qui trouve ça très bien, ce sont toutes les associations dans le monde qui luttent contre le cancer et qui aident les patients, parce qu'à chaque fois qu'une personnalité publique parle de son cancer, eh bien, la sensibilisation est bien meilleure, parce qu'on se sent tous concernés par une personnalité publique, éventuellement que tout le monde aime, on se sent tous concernés, et les dons aux associations augmentent. Donc oui, c'est effectivement très bien. On a un cas en France qui est quand même assez célèbre, c'est celui de Florent Pagny, qui a annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux, dans une vidéo en janvier 2022, qu'il était atteint d'un cancer du poumon, qu'il allait devoir annuler sa tournée pendant 6 mois, mais qu'il reviendrait plus fort pour fêter ses 61 ans plutôt que ses 60 ans. Au final, on apprend qu'il revient, je crois, en 2025 ou 2026.
Tapis avec
n'empêche que le fait qu'il ait pu en parler comme ça, et qu'il en ait parlé simplement, avec de la pudeur mais sans honte, ça a donné de la force à beaucoup de gens, et ça libère la parole. Et quand on se sent capable de le faire, je trouve ça bien. Pour revenir à la famille royale d'Angleterre, Thierry nous a très bien déchiffré le phénomène, et cette exigence de transparence, elle peut être terrible, mais quand on est une famille comme celle-là, elle est presque...
Oui, mais la reine Elisabeth, elle n'a jamais rien
mais
su de la santé de la reine Elisabeth.
Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les
réseaux. Elle avait un cancer.
Ouais, encore une fois, voilà. C'est pas un choix. Tu dis, c'est un choix délibéré.
C'est pas un choix.
Très vraisemblablement, c'est pas un choix de sa part.
Non, mais
ils ont maintenu le silence pendant 2 mois.
Oui, mais ils ont été tellement maladroits.
Oui, mais ils ont maintenu le silence pendant 2 mois. C'est quand même bien la pression populaire.
Bien sûr.
Et la pression médiatique. Qui fait qu'elle a été contrainte au bout d'un moment de parler.
Ouais, mais bon, c'est la famille royale d'Angleterre quand même. On s'attend à ce qu'il y ait une certaine transparence.
Oui et non.
C'est le monde d'aujourd'hui, ça. Si tu veux pas être rattrapé par les fake news, tu restes dans une certaine transparence et tu habitues les gens à ne jamais leur mentir. Là, ils ont un peu.
Aujourd'hui, on sait que le président de la République, chez nous, il fait des check-up, etc. Ouais, et tout. Mais enfin, s'il avait envie, s'il avait une maladie qu'il avait envie de nous cacher, il serait pas obligé.
Bien sûr, c'est pas obligé. Mais comment tu rassures?
C'était totalement faux.
Comment tu rassures les gens?
Ça s'est fait sous Pompidou, dont on a fait semblant de découvrir qu'il était malade.
Mitterrand aussi, bien sûr.
Le jour de l'annonce sa mort, sous Mitterrand, qui détecte un cancer quelques jours après son arrivée au pouvoir en 81, et qui meurt en 95, sans jamais avoir dit la vérité à qui que ce soit, avec des médecins qui faisaient des certificats de complaisance bidons. Moi, je pense qu'il faut faire une différence entre les personnalités publiques, les chanteurs, comme tu le disais, c'est leur choix de le faire, de se montrer, de ne pas se montrer. D'ailleurs, il y a des chanteurs, des acteurs, en dehors de leur promotion, tu les vois jamais. Et tu te demandes pas s'ils sont en train de cacher quelque chose. Là, c'est différent. C'est une institution. Elle fait partie d'une institution. Kate Middleton, elle est décidée à devenir reine.
Ouais.
Son job, c'est d'apparaître en public avec une régularité de métronome. C'est en moyenne 300 à 400 manifestations publiques par an. Donc si elle n'apparaît pas, elle fait pas son job. Et donc elle a un devoir de transparence. Et surtout, ce que j'arrive pas à comprendre, ils sont entourés de tonnes de conseillers médiatiques. Ils ont tout mal maîtrisé du début à la fin. Parce que soit il y a rien, vous parlez de rien, mais vous dites un truc, opération l'abdomen, sans savoir exactement, je reviendrai pas, etc. Et on a l'impression que c'est parti n'importe comment.
Mais personne n'a su ce qu'était cette opération de l'abdomen.
Non, c'est toujours pas.
Donc comme quoi, s'ils n'ont pas envie de dire quelque chose, ils ne le disent pas.
Ben, sauf que si, parce que là, elle est obligée de dire qu'elle a un cancer, parce que le fait d'aller de demi-vérité en demi-mensonge.
On ne sait pas quel est son cancer, on ne sait pas pourquoi il y a eu cette opération à l'abdomen.
En fait. Encore plus de monde. Là, ils ont gagné un peu de répit parce qu'elle a dit j'ai un cancer. Tout le monde va dire ok, super, mais après, on va dire mais cancer.
Je ne crois pas qu'on va dire super.
Non, mais on compatit avec vous, etc. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Mais sauf que le truc d'après, dans 8 jours, dans 15 jours, dans 3 semaines, oui, mais c'est quoi? Et c'est combien de temps?
Et au moins d'accueil.
Quelles sont les conséquences institutionnelles dans un pays où, je rappelle, le chef d'État a un cancer? Son successeur doit s'occuper de son prédécesseur et de sa compagne. Donc il y a un vrai sujet institutionnel. Si on apprend que le président de la République française est malade et que...
Mais est-ce qu'on le saurait? Et s'il fait une chimio,
Je pense qu'on peut pas continuer à faire comme on le faisait dans les années 70, 80, 90.
Un livre qui s'appelle C'est malade qui nous gouverne, je sais pas si
où n'importe qui maintenant fait une photo de n'importe qui, il va dans un hôpital, etc. Mmh. Et il vaut mieux maîtriser la communication en disant les choses avant. Pour éviter qu'on invente n'importe quoi.
Mais je suis pas sûr. Si Emmanuel Macron.
Elle a un cancer, on est en train de dire qu'elle est morte.
Ok, non, mais si Emmanuel Macron se faisait enlever des calculs rénaux, par exemple, tu ne le saurais pas. S'il se faisait opérer de la prostate, il te le dirait
pas. Parce que c'est pas le même indice de mortalité.
Oui. Hein. Aux États-Unis, c'est obligatoire.
Je suis pas sûr qu'on les dise tous sur Joe Biden.
Le président est mis sous anesthésie, c'est le vice-président qui prend le relais.
Le secrétaire de la Défense a été hospitalisé pour un cancer, il n'y a personne, c'est un scandale absolu.
Il y a des poursuites en destitution de la part du Sénat américain contre lui parce qu'il n'a pas tenu informé, alors qu'il aurait dû nommer son adjoint à faire l'intérim, parce que s'il y a eu un conflit pendant qu'il était sous anesthésie, qui dirige?
Évidemment. Morgane est avec nous, nous appelle de Lyon, il est agent de service client. Bonjour Morgane.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Morgane. Est-ce que les personnalités publiques doivent tout dire aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de tout savoir?
Non, absolument pas. Parce qu'avant d'être des personnalités publiques, ce sont des êtres humains qui ont des familles, qui ont des amis et qui ont droit à une certaine vie privée aussi. En fait, Kate Middleton, elle a été obligée de faire cette vidéo parce qu'il y a des rumeurs qui venaient des États-Unis qui la disaient morte, qui la disaient dans le coma. Elle a été obligée de la faire pour rassurer tout le monde. Dès le mois de janvier, on nous a dit elle va avoir une grosse opération abdominale qui fait qu'elle sera convalescente jusqu'à fin mars. Pourquoi ? Mi-mars, ça a commencé à prendre une ampleur mais délirante, ce qui fait qu'elle a été obligée de publiquement révéler sa maladie. On rappelle quand même que la princesse de Galles est avant tout une mère de famille de jeunes enfants. Ses trois enfants ont 18 et 5 ans. Je pense qu'elle avait le droit, en tant qu'être humain, à prendre le temps d'expliquer la situation à ses enfants et de régler ça dans le privé. Mais je trouve ça scandaleux.
Alors, à mon avis, ils ont pris le temps quand même d'expliquer la situation aux enfants. Elle est apparue dans cette vidéo et c'est ce qu'elle dit d'ailleurs. Voilà, il a fallu qu'ils prennent le temps.
Mais elle a été obligée de la faire, cette vidéo.
Oui, mais Morgane, vous m'avez l'air extrêmement bien informée sur le sujet. Ce qui veut dire que si vous êtes bien informée, c'est que ça vous intéresse aussi.
Alors, moi, je suis un petit peu un cas à part. C'est-à-dire que moi, je suis une dingo de la famille royale.
D'accord.
Oui, je me suis renseignée, effectivement, parce que c'est une passion pour moi, cette famille. Donc oui, je me renseigne.
Vous étiez certainement heureuse, entre guillemets, Morgane, de savoir ce qui se passait avec Kate Middleton. Parce que si vous êtes une dingue de la famille royale, comme vous le dites, vous suivez les péripéties de la famille et vous faites partie de ceux qui, justement, ont besoin de savoir.
Non, justement, parce que je respecte la vie privée de ces gens-là et parce que comme Kensington Palace avait communiqué en disant « Vous ne verrez pas Kate avant Pâques », j'ai dit « Ok, on verra pas Kate avant Pâques ».
D'accord.
Okay, vous n'avez pas lu tous les articles qui ont été publiés et qui relayaient toutes les rumeurs
En fait, j'ai vu passer des tweets immondes du Twitter américain qui disait, mais vraiment, des ignominies sur elle. J'ai vu passer ça, mais je n'ai pas lu d'article parce que je me suis contentée de la version Kensington Palace.
Très bien. Bravo, Morgane, parce que c'est vrai que la plupart du temps, les gens disent non, mais laissez-les tranquilles avec leur vie privée, mais ce sont ceux aussi qui achètent les journaux People. Donc effectivement, il y a une certaine dichotomie. Merci, Morgane, de nous avoir appelé.
Mais à ce moment-là, pourquoi avoir fait une photo de n'importe quel type qui a un CAP Photoshop première année trouve qu'elle a été bidonnée? Pourquoi avoir fait annoncer par son secrétariat qu'elle participerait à la revue Trooping the Colors annuelle?
Parce qu'elle savait pas qu'elle avait un cancer à ce moment-là.
Non, mais son secrétariat l'a annoncé.
Bah oui,
Et puis le lendemain, on dit, non, en fait, elle viendra pas.
Mais parce qu'elle avait...
Ça a été foiré, la
pomme
a été foirée.
Peut-être qu'elle pensait que tout allait bien et qu'elle a une mauvaise nouvelle. Ça peut arriver.
Si tu te contentes comme Morgane de la
communication. D'un début à la fin.
Si tu te contentes comme Morgane de la communication de Buckingham, faut pas vouloir la vérité, alors. C'est, enfin voilà.
Ça, ben, c'est une communication institutionnelle. On termine avec des messages. Rémi, le résultat de notre sondage.
Allez, j'ai ce message de Sergio qui nous dit communiquer sur les personnes publiques. Limite, on s'en fiche un peu. Elles ont le droit de vivre, mais étonnamment, ça se passe mal quand tu communiques de manière bidonnée, nous dit-il, et mensongère. Ah oui. Quand tu dis la vérité, ça se passe plus mal, forcément. Et il pointe du doigt les erreurs de communication de la famille royale dans ce dossier. On vous a posé la question. Quand on est une personnalité publique, faut-il pouvoir tout dire ? C'est le nom qui l'emporte. Non pour 64% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
C'est plutôt une bonne chose. Allez, dans un instant, Mélinda d'Avansoulas, on n'arrête pas le progrès, va nous parler de ces nouveaux musées qui attirent les jeunes. C'est des musées avec des jeux vidéo, des casques virtuels, et ça marche très très fort. Et puis à 13h, vous savez qu'on va devoir trouver 20 milliards d'euros d'économies en 2025. Est-ce qu'il faut faire participer les retraités ? Voilà, par exemple, désindexer les pensions, les faire participer, les mettre à contribution pour réduire les déficits publics. On en parle avec vous à 13h. Sur RMC, à tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est midi 49, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et on va parler progrès et nouvelles technologies avec Mélinda d'Avansoulas. On n'arrête pas le progrès, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Mélinda, aujourd'hui, on part au musée, mais pas dans n'importe quel musée. Un musée où l'on met des casques sur la tête, des casques de réalité virtuelle. Ce sont en fait des musées 2.0.
Exactement. Évidemment, je suis là pour parler tech, alors on va pas parler juste culture. On va faire un petit mélange des deux. Direction, le musée d'Orsay. Je vous invite à y aller. À partir de demain, il y a une exposition pour les 150 ans du mouvement impressionniste.
D'accord.
Bon alors, expo, peinture. Classique, musée d'Orsay classique. Et à côté, il y a une expérience en réalité virtuelle qui vraiment vaut son pesant de cacahuètes. Vous allez mettre un casque en arrivant et vous allez arriver dans une grande salle qui fait à peu près 650 mètres carrés.
D'accord.
Alors si vous la regardez sans le casque, ça ressemble à rien.
Okay.
C'est un grand espace avec des traits noirs et blancs partout et des recoins. Une fois que vous avez le casque sur la tête, en fait, vous allez être plongé en 1874, le 15 avril 1874, qui est la date de la première exposition des impressionnistes. C'est le jour où un critique d'art a inventé le mot impressionniste.
D'accord.
En fait. Parce que tous ces peintres, alors vous allez croiser Claude Monet, Edgar Degas, Berthe Morisot, Auguste Renoir, vraiment les grands noms de la peinture impressionniste, qui exposent ce soir-là. À l'atelier Nadar. L'atelier Nadar, c'était boulevard des Capucines, à côté de l'Opéra Garnier. Et c'est un endroit où ils ont pu exposer parce qu'ils étaient un peu les rebuts de la société picturale de l'époque. Eh bien, vous allez refaire, en fait, cette visite de ce soir-là dans l'exposition. Vous allez pouvoir regarder les tableaux qui sont exposés, avoir les peintres à côté de vous. Et certains vont même vous exfiltrer pour vous expliquer certains tableaux. Et tout ça, vous le faites en déambulant dans les 650 mètres carrés. Vous n'avez aucune
avec
idée.
Avec un casque de réalité virtuelle.
Exactement.
En fait.
Et vous n'avez aucune idée du parcours que vous faites dans la salle. Vous ne pouvez pas percuter les autres personnes qui sont là parce qu'elles apparaissent, elles, d'un seul coup en silhouette dans votre casque. C'est hyper bien fait. Il y a une vraie histoire, une vraie narration autour du mouvement impressionniste pour comprendre, en fait, pourquoi ce jour-là a été marquant et pourquoi on fête les 150 ans.
Et ça, c'est génial pour attirer notamment les jeunes au musée. Et pour attirer les jeunes au musée, il y a aussi des jeux vidéo.
Ah oui, c'est original, non ?
Bah oui.
Oui, alors bah justement, j'ai demandé au musée d'Orsay et ils demandent à leurs visiteurs quand ils viennent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on ajoute pour vous faire revenir ou venir au musée ? Ils disent tous de l'innovation. Eh bien, l'innovation, ça passe aussi par le jeu vidéo. À l'Institut du Monde Arabe à Paris, en ce moment, il y a une exposition sur Bagdad, redécouvrir Madina al-Salam. Eh bien, figurez-vous que le fonds documentaire de l'IMA avait prêté des documents pour reconstituer Bagdad à Ubisoft, qui a fait Assassin's Creed Mirage, qui se passe à Bagdad au 9e siècle. Eh bien, retour de l'envoyeur. Ubisoft a prêté sa reconstitution de la ville qui est absolument dingue dans le jeu au musée pour que ce soit beaucoup plus immersif et aussi attirer des plus jeunes. Et puis à l'atelier des Lumières, même principe, on a fait appel à des artistes 3D spécialistes du jeu vidéo pour faire, vous savez, si vous connaissez l'atelier des Lumières, c'est vraiment des choses grandioses, vraiment majestueuses à mise en place. Il y a une exposition sur l'Égypte des pharaons. Et bien pareil, on est allé prendre les graphistes qui ont fait Assassin's Creed Origins, le jeu qui se passe en Égypte.
Alors là, on parle de Paris, mais évidemment, en province aussi, il y a de l'innovation, il y a des musées 2.0.
Et oui, on n'oublie pas non plus les gens qui n'habitent pas à Paris ou qui n'y viennent pas. On avait parlé du musée d'art romanche qui a utilisé la réalité augmentée pour reconstituer le débarquement. Vous pouvez assister au débarquement sur une maquette et vous voyez tout ce qui s'y passe. Eh bien, au musée des Beaux-Arts de Rennes, figurez-vous que c'est la momie d'un chat qui est exposée et que vous allez pouvoir regarder plus près, sans la dépatouiller. Oui, avec pareil, avec un casque de réalité virtuelle. En fait, on va vous expliquer, vous allez jouer l'archéologue. Comment est-ce que la momie a été découverte? Comment est-ce qu'elle est passée en radio pour voir tout ce qu'il y avait dedans? C'est vous qui allez devenir l'archéologue. À Calais, la cité de la dentelle et de la mode, elle a ressuscité la machine à vapeur. Figurez-vous, grâce à la réalité augmentée, à la réalité virtuelle aussi, on peut revenir au 19e siècle et se balader dans les usines qui ont toutes disparu désormais. Eh bien, vous pouvez voir comment ça se passe à l'époque, comment les machines tournaient, comment la vie se faisait.
Eh ben, merci beaucoup, Mélinda d'Avansoulas, de nous avoir parlé de ces musées. Effectivement, ces musées un petit peu révolutionnaires et qui devraient attirer de nombreux jeunes. Merci beaucoup, Mélinda. On parle de quoi demain?
Oh, demain, on va voir, il y a plein de choses. On peut parler sommeil demain, si vous voulez. Est-ce que vous voulez que je pense à votre sommeil?
Oui, on a envie. Merci beaucoup. Mélinda, tous les jours, dont on n'arrête pas le progrès, midi 50 dans Estelle Midi. Et puis, si vous voulez retrouver cette chronique de Mélinda, vous n'hésitez pas. En podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. Dans un instant, on parlera des économies à trouver en 2025. 20 milliards. Est-ce qu'il faut mettre les retraités à contribution pour réduire les déficits publics? C'est la question qu'on vous posera dans un instant dans Estelle Midi. On attend vos avis, vos commentaires au 32 et sur l'appli AMC.